Une séance du Congrès est toujours en cours. Les élus sont réunis depuis ce début d'après-midi pour donner leur avis sur la tenue de la consultation anticipée des Calédoniens sur l'accord de Bougival. Près de 2700 hectares de végétation partis en fumée, selon le dernier bilan provisoire de la sécurité civile concernant l'incendie de l'île des Pins. 70 pompiers et personnels de la mairie, appuyés par 2 hélicoptères bombardiers d'eau, sont toujours sur place. Une fierté pour la Nouvelle-Calédonie. Juliette Collet a terminé première dauphine du concours Miss France 2026, seulement devancée par Miss Tahiti. Elle nous a fait part de sa réaction au lendemain du concours. Nous sommes revenus sur la cérémonie des trophées du sport calédonien qui s'est déroulée vendredi dernier. Christophe Dabin, président du CTOS, était notre invité du MAC des Sports. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie convoqué cet après-midi pour examiner le projet de loi organisant la consultation des Calédoniens sur le texte de l'accord de Bougival signé le 12 juillet dernier. Après une suspension de séance, les élus sont actuellement en train d'expliquer leur choix de vote, Jean-François Baudin.
Oui, en fait, au terme du débat, les positions exprimées par les différents groupes politiques lors de ce débat sur ce projet de loi sur un vote anticipé des Calédoniens sur l'accord de Bougival sont conformes aux prises de position des uns et des autres de ces derniers jours. Les élus UCFLNKS, opposés, comme on le sait, à l'accord de Bougival, ne trouvent plus de mots assez durs pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un passage en force de l'État. Et ils rejettent donc cette demande de consultation anticipée, au contraire de l'intergroupe loyaliste, qui reconnaît, lui, que la situation politique en métropole nécessite des aménagements de calendrier, mais ce qui ne change rien au problème de fond. Les élus ne doivent pas avoir peur du peuple et on ne peut pas empêcher les gens d'aller voter, surtout quand nous, les élus, on n'est pas arrivés à se mettre d'accord, a expliqué en substance le député Nicolas Metzdorf. En fait, le résultat des votes dépend des autres groupes politiques, notamment de l'UNI qui a choisi de s'abstenir, au motif notamment que le travail des facilitateurs qui devait permettre d'amender cet accord de Bougival, voire de le réécrire d'une certaine façon, n'a pas pu aller à son terme. Il considère donc qu'il est trop tôt de demander aux Calédoniens de voter sur un accord qui n'est pas complètement abouti. De leur côté, Calédonie Ensemble et l'Éveil océanien ont eux choisi l'abstention au terme d'une argumentation assez complexe qui se base sur la recherche d'un consensus pour l'instant impossible et qui ont mis en avant qu'organiser la consultation anticipée le même jour que le premier tour des municipales avec des corps électoraux différents comportait des risques de lisibilité du scrutin. Au terme de ce débat, le vote vient de se terminer. Finalement, le projet de loi qui demande la consultation anticipée des Calédoniens sur le projet d'accord de Bougival a obtenu 19 voix pour et 14 voix contre. Il y a eu 19 abstentions. Ça veut dire que cet avis favorable va maintenant être transmis à Paris. On sait que c'est un avis et qu'il pèsera nécessairement sur le vote des députés de l'Assemblée nationale qui auront, eux, à valider in fine ce projet de loi sur la consultation anticipée des Calédoniens sur l'accord de Bougival. Voilà ce qu'on pouvait dire du débat qui a eu lieu cet après-midi. On peut donc retenir ce vote qui vient d'intervenir à l'instant. 19 voix pour que la consultation des Calédoniens soit organisée pour le 15 mars pour qu'ils se prononcent sur l'accord de Bougival. 14 contre et 19 abstentions. En direct du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Jean-François Baudin, Radio Rythme Bleu.
Allons débat donc au Congrès avec de nombreuses prises de parole et les chefs de groupe, mais aussi de nombreux élus ont tenu à s'exprimer, Elisabeth Noir.
Près de 3 heures de débat en effet cet après-midi dans l'hémicycle du boulevard Vauban. Notez que c'est le secrétaire général Stanislas Alfonsi qui a pris la parole en premier pour rendre public un courrier de la ministre des Outre-mer aux élus. Un courrier dans lequel elle indique que l'État est à disposition sans délai des formations politiques calédoniennes, quel que soit le vote du Congrès, pour les discussions sur les suites qu'ils souhaitent envisager après leur vote. Voilà donc pour cette mise au point du secrétaire général, qui est d'ailleurs intervenu en fin de débat également pour répondre à un certain nombre de déclarations concernant la décolonisation ou les reproches faits à la colonisation, faits à la France par un certain nombre d'élus indépendantistes. Mais pour les élus, c'est le chef du groupe du Rassemblement, Virginie Rufnacht, qui a pris la parole en premier. Elle annonce sans surprise que son groupe est favorable au texte.
Nous sommes d'abord favorables parce que consulter la population ne fait jamais mal et que finalement, quand les forces politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord, en dernier recours, par défaut, hélas, il est opportun de consulter directement la population. C'est finalement ce que cette proposition de loi ordinaire permet. C'est bien la raison pour laquelle, pour ne donner aucun signe du côté de notre groupe de désengagement vis-à-vis de l'accord que nous avons signé à Bougival, aujourd'hui nous donnerons un avis favorable à ce projet de loi.
C'est ensuite Pierre-Chanel Totougourou pour l'UCFLN Caisse et Nationaliste qui prend la parole et qui fait part de ses griefs contre l'État, contre Bougival. Sans surprise, son groupe a voté contre.
Aujourd'hui encore, malgré les alertes répétées du Congrès, malgré les positions claires de nombreuses forces politiques locales, le gouvernement français persiste dans une stratégie qui écarte toute véritable solution consensuelle. Cette méthode fragilise le dialogue, méconnaît les réalités politiques du territoire et ignore les mises en garde pourtant exprimées depuis des mois. Nous alertons, nous prévenons, mais nous constatons que le gouvernement français persiste dans sa stratégie, celle d'annihiler toute solution consensuelle voulue par la majorité parlementaire et surtout par les forces politiques locales.
Le groupe UCFLN-CAS qui a donc voté, donné un avis défavorable à ce projet de loi, on en parlait il y a un instant. Pour le groupe UNI, Jean-Pierre Diaoué, chef du groupe, a fait une longue déclaration pour expliquer sa position. L'UNI estime que les conditions dans lesquelles se prépare cette consultation anticipée ne sont pas réunies. Il était d'accord pour chercher une solution consensuelle. Il défend toujours l'accord de Bougival, mais il souhaitait qu'on y apporte des améliorations. En conséquence, son groupe ne pourra voter ni pour ni contre. Voilà ce qu'explique le chef du groupe UNI.
Le groupe UNI ne pourra voter pour ce projet de loi ordinaire qui ne tient pas compte des améliorations à venir du compromis politique de Bougival. Ne pourra non plus voter contre ce projet de loi ordinaire au risque de voir son vote être confondu avec celui des détracteurs du projet et être interprété comme un rejet du processus engagé et une remise en cause de son engagement. L'enjeu crucial de cette séquence n'étant pas la consultation anticipée, mais bien de donner des perspectives, de l'espoir à la population calédonienne, le groupe UNI refuse d'entériner un projet de loi ordinaire synonyme de précipitation et de déséquilibre sans prise en compte des nécessaires précisions et améliorations. C'est la raison pour laquelle le groupe Union nationale pour l'indépendance interpelle l'État sur sa responsabilité dans cette séquence en réservant son avis sur ce projet de loi ordinaire et de rappeler que le groupe UNI souhaite maintenir son soutien à l'accord de Bougival en y apportant les éléments d'éclairage nécessaires avant le 14 janvier 2026. Pour toutes ces raisons, le groupe Union nationale pour l'indépendance a décidé de s'abstenir sur ce projet de loi ordinaire. Il demande que l'on poursuive les discussions et que l'on revienne au processus prévu initialement.
Voilà pour cette prise de position de Jean-Pierre Diaoué. Le groupe Union s'est donc abstenu sur le projet de loi. La chef de file des loyalistes, Sonia Backès, a ensuite pris la parole pour répondre notamment aux arguments qui étaient avancés par Pierre-Chanel Totougourou, mais aussi aux autres arguments évoqués cet après-midi. Et elle rappelle, on a tous donné notre accord au communiqué du 14 novembre qui envisageait d'avancer la consultation des Calédoniens. Pour elle, il n'est pas possible de revenir au calendrier initial, comme le souhaitent certains.
Nous, on n'a pas de difficulté au principe de revenir sur le calendrier initial. Sauf que si on en est sorti, c'est parce qu'on sait qu'il y a des difficultés à Paris à faire adopter un projet de loi constitutionnelle, puisque c'est ce qui est proposé aujourd'hui par le groupe UNI, dans les conditions où un groupe s'est désengagé de sa signature. Ça ne va pas changer demain. La difficulté d'avoir une majorité, et a fortiori d'avoir les 3/5 au Congrès de Versailles, n'a pas changé. La consultation de la population, finalement, permettait tout simplement à la démocratie de s'exprimer. Permet tout simplement aux parlementaires de savoir exactement ce que pensent les Calédoniens sur l'accord de Bougival. Donc conformément à ça, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, nous donnerons un avis favorable à ce projet de loi. Il permet, encore une fois, de continuer à discuter. Il permet, d'ici la consultation, d'avoir tous les éclairages nécessaires sur le projet de loi constitutionnel.
Voilà donc pour cette déclaration de Sonia Backès, chef de file des loyalistes. Beaucoup, beaucoup de prises de parole cet après-midi. Nicolas Mézor, pour les loyalistes également, défend qu'il ne s'agit pas d'un passage en force, dit-il. Et pour des élus, il est étrange d'avoir peur du peuple. Philippe Dunoyer, qui parlait au nom des élus de Calédonie Ensemble, estime que la consultation anticipée soulève beaucoup d'interrogations. Pourquoi inverser le calendrier? Comment instaurer un corps électoral restreint? Et quelle est l'opportunité d'une consultation anticipée? Je soutiens Bougival, dit-il, mais ça ne correspond pas à ce que dit Bougival. Prise de parole également pour l'éveil océanien, et puis plusieurs interventions de la part du groupe UCFLN-CAS, notamment de Rocco Mitton, qui est intervenu très longuement pour parler d'une démocratie dévoyée, d'une hydre à 10 têtes, et pour faire le procès de l'État dans la décolonisation. Une séance extrêmement dense, donc une séance très très longue, avec de nombreux débats qui ont été évoqués. Beaucoup, beaucoup de déclarations cet après-midi au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, avant ce vote qui finalement est donc favorable à l'organisation de la consultation anticipée des Calédoniens sur l'accord de Bougival.
Merci Elisabeth. Et notez que nous reviendrons sur cette séance du Congrès demain matin. Virginie Rufnak, chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, sera notre invitée à 7h30. Le Conseil d'État annule l'élection de Mathias Ouaneux à la présidence de la province des Îles. Jacques Lallier avait demandé son annulation au motif qu'elle avait eu lieu le 27 décembre 2024, alors qu'elle n'aurait pas dû se tenir avant la décision concernant un recours de l'ancien président de la province des Îles. Jacques Lallier avait en effet attaqué la décision du haut commissaire de le démettre de ses fonctions après la peine de 2 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire prononcée à son encontre dans l'affaire de délit de favoritisme lors du renouvellement du parc informatique de la province des Îles le 9 décembre de l'année dernière. L'élection du nouvel exécutif n'aurait donc pas dû se tenir avant la décision du tribunal administratif sur ce recours. Selon nos informations, l'Assemblée de la province des Îles devrait se réunir dans la semaine pour renouveler son bureau. Et comme prévu, une première réunion de travail s'est tenue ce matin sur le pacte de refondation économique proposé par le Premier ministre. Le président du gouvernement, Alcide Ponga, a réuni les présidents d'institutions et les chefs de groupe au Congrès pour évoquer ce plan quinquennal de 264 milliards de francs proposé vendredi par Sébastien Lecornu. Les élus souhaitent des éclaircissements, notamment sur la question des prêts de l'État. Une seconde réunion de travail devrait avoir lieu dans les prochains jours afin de préparer un document commun à transmettre à l'État.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, le plan de relance de l'État à hauteur de 264 milliards CFP sur 5 ans, est-il selon vous de nature à relancer la confiance? Si vous pensez que oui, vous tapez 1, si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Un mot d'actualité sociale, la FEDE qui écrit au président du gouvernement et qui dépose un préavis de grève pour vendredi prochain. Le syndicat annonce toute une série de dysfonctionnements du comité technique paritaire, l'instance de dialogue entre l'administration et les représentants des fonctionnaires. Le préavis de grève déposé par la FEDE prendra la forme d'un débrayage de 55 minutes entre 8h et 8h55 vendredi, soit le 12 décembre, devant l'immeuble Le Lys Rouge. Il est 17h59, première pause dans ce journal avant de revenir sur l'avancée de l'incendie actuellement en cours, toujours sur l'île des Pins.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
Au cœur de Noël, une initiative de Radio Rythme Bleu parrainée par l'OPT avec le concours de la Croix-Rouge, de la Société Saint-Vincent-de-Paul, du Secours catholique et de la Table ronde française. Au cœur de Noël, c'est la part du cœur, la vôtre, la nôtre, pour que les enfants ne soient pas oubliés au soir de Noël. Au cœur de Noël, une belle histoire qui s'écrit grâce à vous. Tous les jours, de 7h30 à 19h, venez déposer à la radio aux 4 rue de Sébastopol vos cadeaux et jouets pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Au cœur de Noël, avec RRB.
Info soir, Léana Colombo.
Les pompiers toujours mobilisés pour lutter contre l'incendie de l'île des Pins. En une semaine, 2700 hectares de végétation ont été détruits par les flammes. Selon les dernières reconnaissances, le périmètre du feu est limité entre 3 routes municipales. La progression de l'avant du feu est fixée et une quinzaine d'habitations situées entre les tribus de Touété et de Youati a été sécurisée. Les 70 pompiers engagés de la DSCGR, de l'aérodrome et du personnel de la mairie traitent les fumerolles visibles sur l'avant et la droite du feu. Le dispositif ORSEC feu de forêt de niveau 2 est toujours activé. Écoutez les précisions du capitaine Laurent Thomas, officier de permanence de la sécurité civile.
On a une évolution favorable pour la première fois après 7 jours de feu. Après l'action de cette journée, on peut dire que la partie avant est complètement fixée, donc elle ne représente plus de danger. Les équipes ont continué à travailler toute la journée sur la zone d'habitation et on a juste une parce qu'on ne pouvait pas être sur tous les fronts. On a toujours l'arrière du feu qui continue légèrement à progresser vers le sud, mais vraiment c'est une évolution extrêmement lente. On a un détachement d'une vingtaine de pompiers qui est sur zone, composé de pompiers de l'aérodrome et des pompiers de la sécurité civile, mais c'est surtout, on a plus d'une cinquantaine de bénévoles de l'association ABNB Île-des-Pins qui œuvrent et nous donnent vraiment la main pour faire ce travail de fourmi, d'aller chercher des fumerolles et de les traiter.
D'importants incendies se déroulent également à Koumac. Plusieurs départs de feux d'origine criminelle ont été signalés entre 3h du matin et 14h aux alentours du lieu-dit La Crinière, du lieu-dit Chagrin et à proximité du RSMA. Trois farés du RSMA ont d'ailleurs été détruits par les flammes et l'incendie se dirige en direction de la zone commerciale du Leader Price. Mais selon la gendarmerie, il n'y aurait pas de risque humain. 15 habitations ont toutefois été évacuées dans la zone. Les conditions météo défavorables compliquent le travail des pompiers sur place et le dispositif Orsec feu de forêt de niveau 2 a donc été activé à 17h. Un hélicoptère bombardier d'eau appuyé par des moyens terrestres de la sécurité civile seront engagés demain matin dès 6h. Et à l'approche de la saison estivale, nous consacrerons notre magazine citoyen à la sécurité du Lagon. Nous recevrons notamment Marc Sabatier, le président de la SNSM à Nouméa, et Tiffen Reed, chef des gardes nature de la province sud. Un magazine citoyen à retrouver demain midi sur Radio Rythme Bleu. C'était l'événement de ce dimanche. Miss Nouvelle-Calédonie termine deuxième du concours national Miss France. Juliette Collet s'est hissée jusqu'au duel final qui aura finalement vu le sacre de Miss Tahiti. Inaupoco Devez, Miss Nouvelle-Calédonie, première dauphine de Miss France, nous a fait part de sa réaction et déjà de sa grande surprise d'avoir été aussi loin dans le concours.
Mon but, je visais déjà le top 12. Je n'aurais jamais imaginé faire partie de toutes ces femmes qui ont été retenues. Et lorsque j'ai été retenue, il a fallu faire le discours. Et j'ai rien dit de ce que j'avais écrit parce que trou noir, je ne me souvenais pas du tout. Donc j'ai improvisé. Par chance, je suis rentrée dans les 1 minute top chrono de Jean-Pierre Foucault. Je sais que j'ai réussi à parler de Shandinyam et de la Nouvelle-Calédonie et de mon métissage, et donc j'étais très contente. Et par contre, au top 5, j'ai été appelée en dernière et j'y croyais plus du tout. Une fois qu'on a appelé la Guadeloupe et Tahiti, je me suis dit non, ils vont pas mettre 3 dom-toms dans le top 5, c'est pas possible. J'étais, je crois, la dernière à être appelée. Qu'est-ce que j'étais contente, j'y croyais pas, et toutes mes copines derrière qui étaient trop contentes pour moi. Et quand ils ont énuméré après les dauphines une par une, et là je me suis rendu compte que les deux dernières c'était les deux seules Miss du Pacifique. Mais alors là je pouvais pas rêver mieux, et je pense que tous les Iliens diront la même chose, on ne pouvait pas rêver mieux, on était trop contentes.
Pour Juliette Collet, c'est une fierté de voir les deux représentantes du Pacifique terminer en finale du concours Miss France.
Je savais qu'Ina était favorite depuis le début. Même avant sa sélection, même avant son élection, lorsqu'elle était encore candidate, elle faisait déjà partie des favorites pour Miss France. Moi, venant de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est jamais qualifiée, qui ne connaît pas le monde des Miss, qui sort de mon petit village, je ne pensais pas être à la même hauteur. Et lorsque les résultats sont sortis et j'ai vu que j'avais la majorité des votes du jury, j'étais tellement heureuse. Je pense que je peux être fière et je suis. Mais merci beaucoup à toute la Nouvelle-Calédonie de m'avoir portée, parce que je suis trop fière de représenter la Nouvelle-Calédonie et ça apporte aussi une autre image. On entend parler enfin de la Nouvelle-Calédonie pour les paillettes, pour le donner le sourire tout simplement. Donc je suis trop contente. Je suis trop fière d'avoir pu porter la Nouvelle-Calédonie jusqu'ici. Rien que de fouler le plateau de la scène Miss France et de représenter mon pays, c'était une fierté, mais d'avoir fait rêver les Calédoniens et fait parler de la Nouvelle-Calédonie à cette échelle nationale, c'était une vraie fierté, oui.
On rappelle qu'une seule Calédonienne était allée aussi loin dans l'élection, c'était en 1978. Pascal Taouroua avait été sacré Miss France.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Et nous ne vous le dirons jamais assez, vous êtes de plus en plus nombreux à venir chaque jour à la radio. Vous vous mobilisez pour notre opération au cœur de Noël en faveur des plus démunis et nous vous en remercions très vivement. Au cœur de Noël se poursuit avec vous et surtout grâce à vous. Je rappelle que tous les cadeaux que vous apportez pour les enfants seront distribués par nos associations partenaires aux familles en difficulté. Vous pouvez passer tous les jours de 7h à 19h à Radio Rythme Bleu, 4 rue de Sébastopol. Vous pouvez aussi déposer vos cadeaux à Petit Dôme, route de Lanzvata. Et merci encore pour toute votre générosité. Une autre action pour la bonne cause. Les Calédoniens étaient appelés à se mobiliser ce week-end lors de la 30e édition du Téléthon. Celles et ceux qui le pouvaient ont appelé le 36-37 pour faire une promesse de don et venir en aide aux personnes souffrant de maladies neuromusculaires. Hier après-midi, les bénévoles annonçaient déjà 2 182 500 de dons, un montant qui se rapprochait de celui de 2023. Robert Acapé nous en dit plus.
Nous sommes en retard de 90 promesses par rapport à 2023, avec presque 2 millions de moins qu'en 2023. On comprend très bien la situation économique est difficile en Nouvelle-Calédonie, mais les gens ont quand même répondu pour la 30e édition du Téléthon. Et pour ceux qui auraient oublié de faire un don au 36-37, ils peuvent toujours se manifester en faisant un chèque au nom de l'AFM Téléthon et l'envoyer à la BP 1774 98 845 Nouméa Cedex. Donc on en est là aujourd'hui. On est quand même satisfait et on veut remercier tous les donateurs qui ont participé à cette 30e édition.
Des propos recueillis par Kéline Daboakou. Il est 18h, passé de 7 minutes, seconde pause, avant d'ouvrir notre page sport. A tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête-à-tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal, le sport avec Léana Colombo.
Et ce bon bilan pour Maxime Grousset qui participait au championnat d'Europe de natation en petit bassin, Lionel Sabot.
Oui, il a conclu sa belle semaine polonaise par 2 médailles d'argent aujourd'hui. D'abord en individuel sur le 50 mètres nage libre avec un chrono de 20 secondes 81 centièmes. Il n'a été devancé que par le Croate Jere Irbar. Pour couronner le tout, Maxime Grousset a cherché un dernier podium, une médaille d'argent avec le relais masculin 4x50 mètres 4 nages aux côtés de Clément Cecchi, de Jérémy Delbois et de Mawen Tomac. Ça fait donc 6 médailles pour Maxime Grousset dans cette compétition. On rappelle qu'il avait déjà décroché l'or en finale du 100 mètres nage libre, l'or sur le 100 mètres papillon, mais aussi l'argent sur le 100 mètres 4 nages et le bronze sur le 50 mètres pape.
Maxime Grousset qui a d'ailleurs été désigné vendredi soir athlète calédonien de l'année. Les trophées du sport 2025 se déroulaient au château et nous sommes revenus sur cet événement ce midi dans le Mac des Sports avec le président du CTOS qui était notre invité. Christophe Dabin a également dressé le bilan de l'année. La plupart des ligues ont repris leurs activités malgré la crise et après une année 2024 perturbée par les émeutes.
On avait déjà vu en fin d'année dernière donc que le sport reprenait petit à petit sa place. Mais c'est vrai que cette année, par rapport à l'ensemble des disciplines, avec certaines disciplines qui ont peut-être un peu plus de difficultés, hein, on parlait des sports automobiles, la moto, qui eux sont confrontés à une autre problématique qui est aussi la partie économique, parce que ce sont des sports et des disciplines qui sont quand même coûteuses. Et c'est vrai qu'avec la disparition des sponsors, c'est plus difficile. Mais malgré tout, ils continuent, reprennent petit à petit leur place. Et ensuite, sur l'ensemble des disciplines, à part celles naturellement qui ont été totalement impactées, comme l'escalade, comme le bowling, on a véritablement l'ensemble des disciplines qui ont repris un fonctionnement, on va dire, normal. Et quand on voit chaque week-end les compétitions qui sont organisées, les championnats Nouvelle-Calédonie qui se poursuivent les uns après les autres, ça montre véritablement que l'activité sportive a repris a pris toute sa place. Mais ensuite, surtout, c'est les déplacements qui commencent maintenant à se faire, même si on a quand même des problèmes financiers. Ces déplacements avec ces résultats que l'on peut avoir, avec ces masters, je veux dire ces juniors, tous ceux qui partent à l'extérieur et qui continuent là aussi à montrer. Mais s'ils partent à l'extérieur, ça veut dire qu'on a bien une activité soutenue en Nouvelle-Calédonie.
Christophe Davin qui a également dressé les perspectives des années à venir avec en point d'orgue pour le mouvement sportif calédonien les Jeux du Pacifique 2027. Et on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Alors, et on va voir la météo tout de suite avec vous, Pierre.
Cette nuit, sur la pointe sud, le sud-est et le Loyauté, la lune sera souvent dissimulée par de nombreux nuages. Au fil des heures, cette couverture nuageuse remontera vers le nord-est et la pointe nord, apportant des averses de plus en plus fréquentes. Sur l'ouest, le ciel restera plus calme, une lune parfois voilée, mais un temps sec dans l'ensemble. En début de nuit, l'alizée de sud-est restera soutenue autour de 20 nœuds, avec des rafales proches de 30 nœuds. Puis, il s'agira progressivement, passant entre 15 et 20 nœuds avant de tomber vers 10 à 15 nœuds, voire 5 à 10 nœuds sur l'ouest en fin de nuit. Les températures seront contrastées, 16 à 22 degrés sur le sud et jusqu'à 23 à 24 degrés sur l'extrême nord, Ouvéa et Lifou. Demain matin, le soleil dominera sur l'ouest et le nord-est, parfois voilé par de hauts nuages. Ailleurs, notamment sur la pointe sud, les Loyautés et le sud-est, le ciel restera chargé avec des averses circulant dans l'Alizée. Le vent de sud-est soufflera généralement entre 15 et 20 nœuds, avec un passage plus musclé sur le sud-ouest, où les rafales pourront approcher 30 nœuds. Sur la pointe nord, l'Alizée sera plus discret autour de 10 nœuds. Côté marée, elle sera haute ce soir vers 22h14. Elle descendra ensuite en fin de nuit pour atteindre la basse mer demain à 4h29 avant de remonter vers une pleine mer demain en fin de matinée autour de 11h24.
Et merci beaucoup Pierre. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Avis favorable au Congrès pour le projet de loi organisant la consultation des Calédoniens sur le texte de l'accord de Bougival signé le 12 juillet dernier. Le projet de loi qui a recueilli 19 avis favorables, 14 avis contre et 19 abstentions. Il est 18h12, c'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve à 19h pour le rappel des titres.